toutes et à tous. Bienvenue sur l'émission Dialogue sur Radio Aligre. Je suis en présence d'Isabelle Raviolo.
Bonjour à tous, chers auditeurs.
Nous penserons également à Christine Bessy qui a participé à la préparation de cette émission. Et nous sommes heureux d'accueillir Cécilie Champy-Vinas, conservatrice du musée Zadkine, à l'occasion d'une magnifique exposition sur la sculptrice ukrainienne Shana Orlov, intitulée « Sculpter l'époque ».
Musée Zadkine qui se situe à Paris, Cécilie, et comme l'a rappelé Paul, dont vous êtes la directrice.
Oui, alors c'est un petit musée, mais un musée plein de charme. C'était la maison et l'atelier d'Ossip Zadkine, qui était un sculpteur très important du XXe siècle. C'est une maison qui se trouve pas très loin de Montparnasse, pas très loin du Jardin du Luxembourg. C'est pour ça que Zadkine l'avait choisi. Hein. C'était un de ces artistes qu'on rattache à l'école de Paris. Vous savez, tous ces artistes d'origine étrangère, souvent des Juifs, qui sont venus des pays d'Europe de l'Est au tout début du XXe siècle et qui sont installés à Paris pour faire carrière et pour devenir artistes. Et Zadkine en fait partie. Et il a tout de suite eu un coup de foudre pour le quartier de Montparnasse et pour cette petite maison qui a un jardin et dans laquelle il a fait construire un atelier. Et cette maison est devenue, après sa mort, grâce à sa femme, qui était aussi artiste, qui s'appelait Valentine Prax. Et c'est elle qui a fait le don de cette maison et de toutes les œuvres de son mari et des siennes à la ville de Paris. Et c'est pourquoi aujourd'hui, donc, ce musée Zadkine existe et organise régulièrement des expositions.
Et là, pour cette saison, l'exposition est consacrée à cette sculptrice ukrainienne étonnante, Shana Orlov, née en 1888, morte en 1968, donc qui est morte assez âgée, et qui a eu une œuvre absolument étonnante dont vous allez nous parler.
Alors Shana Orlov, effectivement, elle a eu une longue vie, elle a vécu 80 ans, et on l'a choisie parce qu'en fait, sa vie présente beaucoup de similitudes avec celle de Zadkine. Comme Zadkine, elle est née dans ce qui était à l'époque l'Empire russe. Alors effectivement, aujourd'hui, elle est née en Ukraine, alors que Zadkine, lui, est né dans ce qui est devenu aujourd'hui la Biélorussie. Mais enfin, il partage ses origines slaves.
Elle est née à Kharkiv, plus précisément.
Oui, dans la région de Kharkiv, effectivement. Et elle arrive à Paris, ça c'est important, exactement la même année que Zadkine, à 22 ans, donc en 1910. Elle vient pas directement d'Ukraine parce qu'elle part avec ses parents en 1905 pour la Palestine, ce qui est à l'époque la Palestine, ce qui deviendra en 48 Israël. Et c'est évidemment, elle fuit l'Empire russe parce que c'est la grande période des pogroms, donc tous les Juifs dans certaines régions de la Russie sont persécutés. Donc c'est pour ça que ses parents prennent la décision de partir pour la Palestine. Et en Palestine, en fait, elle se destine à devenir couturière. Au départ, elle n'envisage pas du tout de devenir artiste. Et pour étudier la couture, il n'y a pas vraiment d'école à ce moment-là dans son pays. Et c'est pour ça que un de ses frères l'encourage à partir et à aller à Paris, qui à l'époque est la capitale de la mode et la capitale des arts, hein, qui est vraiment comme un aimant qui attire tous les jeunes créateurs. Et c'est comme ça qu'elle prend le bateau pour Marseille. Elle arrive à Marseille, elle parle pas du tout français. C'est à ce moment-là qu'un douanier qui lui demande son nom. En fait, elle s'appelle Hana et elle dit Hana Orlov. Et lui ne comprend pas, donc il écrit Shana. Et c'est comme ça qu'elle va garder ce nom ensuite. D'accord. Toute sa vie, qui est un nom francisé, enfin un prénom francisé en fait. Et de Marseille, eh ben, elle prend le train et elle arrive à Paris. Elle ne connaît pas grand monde, mais grâce à cette solidarité justement entre juifs, elle arrive à se débrouiller. Et quand elle commence à travailler comme couturière dans une grande maison de couture qui est la maison de Jeanne Paquin. Et c'est là qu'on remarque ses dons pour le dessin. C'est une jeune femme qui dessine très très bien. Et on lui conseille du coup de s'inscrire dans une école d'art et elle va comme ça, elle réussit le concours de ce qui est l'école des arts décoratifs, qui est une école importante, moins prestigieuse que l'école des beaux-arts, mais quand même parce qu'elle prépare en fait les jeunes hommes et les jeunes femmes à devenir des artisans d'art. Vous voyez, tous ceux qui faisaient des dessins, par exemple, pour la joaillerie, pour les meubles. Enfin, il y avait vraiment besoin de beaucoup de dessinateurs. Et donc, c'est ce qu'elle apprend. Et de fil en aiguille, elle va également se lier avec beaucoup de jeunes artistes. Comme elle, d'origine juive, elle va devenir notamment l'amie de Modigliani. C'est elle, par exemple, c'est grâce à elle que Modigliani a rencontré Jeannet Buterne, qui est sa compagne, qui va devenir sa femme, parce que Jeannet Buterne était la camarade en fait, de Shana Orloff à l'École des arts décoratifs. Et c'est en fréquentant tous ces artistes, ce qu'on appelle aujourd'hui de l'École de Paris, hein, qu'elle va s'intéresser à la sculpture. Elle va avoir l'occasion d'aller dans des ateliers de sculpteurs. Et elle a vraiment une révélation pour cet art. Et c'est comme ça que, du dessin, elle passe à la sculpture. Elle fréquente aussi une autre école qui était l'Académie Vassiliev, qui était une académie libre fondée par une jeune russe, Marie Vassiliev. Et cette Académie Vassiliev, qui se trouve à Montparnasse, hein, avenue du Maine, va vraiment attirer tous les artistes, dont beaucoup d'artistes célèbres aujourd'hui, comme Chagall, mais comme Zadkine aussi. Elle a probablement croisé Zadkine à l'Académie Vassiliev. Et c'est là vraiment qu'elle commence à apprendre la technique de la sculpture et à réaliser ses premières œuvres qu'elle présente au salon, dès le début des années 10, en fait.
Merci beaucoup, Cécilie. Et on sent dans cette œuvre sculptée les racines juives de Shana Orloff, notamment à travers ce bois magnifique de 1916, Prophète, ou encore dans une sculpture qui m'a beaucoup touchée, Ruth et Noémie. Alors, dans la Bible, le livre de Ruth est un tout petit livre, mais Ruth est une étrangère, la Moabite, qui arrive dans une terre où elle n'est pas accueillie. Elle glane le blé, donc ce qui reste en fait, pour subvenir aux besoins de sa belle-mère et aux siens. Et puis c'est là qu'a lieu la rencontre avec Booz. Mais c'est très intéressant cette sculpture, parce que c'est le rapport entre une jeune femme et une vieille dame. Et dans ce rapport, il y a quelque chose d'un corps à corps qui se passe à travers la matière et de la matière avec l'œuvre de Shana Orloff. Je trouve qu'on est élevé à l'esprit, parce que comme dans l'œuvre philosophique de Simone Weil, il y a la pesanteur à travers le matériau, le bois, le bronze, la terre cuite, mais dans cette pesanteur, quelque chose comme une poésie du réel nous élève, nous, à la grâce de ce geste, de cette cause efficiente, dirait Aristote, cette main de l'artiste qui vient en quelque sorte donner à cette matière une forme qui appelle à la contemplation.
Oui, vous avez tout à fait raison. Mais en fait, alors Shana Orloff, comme beaucoup de jeunes sculpteurs de sa génération, aime la taille directe, revient à ce qu'on appelle la taille directe, par opposition à ce que faisaient les sculpteurs au XIXe siècle, notamment Rodin, qui modelait et puis ensuite qui déléguait la réalisation de l'œuvre achevée à leurs élèves, à leurs praticiens. Et Zadkine et Shana Orloff font partie des sculpteurs qui, au contraire, reviennent à la taille directe, c'est-à-dire qu'ils prennent un bloc de bois ou voilà pour sculpter Ruth et Noémie ou le prophète, et ils le taillent directement avec leurs outils, les burins. Et ce qui est très beau, par exemple, sur la tête de prophète que vous avez mentionnée, quand on s'approche, on voit très bien encore les traces d'outils qui sont laissées apparentes, qui donnent à la matière tout son relief. Et ça, c'est une volonté. Et ça se rattache aussi à une mythologie qui est courante chez les sculpteurs, qui se transmet depuis la Renaissance et Michel-Ange. C'est l'idée que quand on voit un bloc de pierre ou un morceau de bois qu'on a envie de tailler, à l'intérieur, il y a déjà en fait l'image, vous voyez, l'œuvre, et que c'est au sculpteur de dégager progressivement cette œuvre qui est cachée un petit peu dans le matériau. Oui. Et ça, c'est très beau et très fort, et on le retrouve effectivement chez Shana Orloff dans ses bois. C'est une artiste qui a pratiqué tous les matériaux, vous l'avez dit, mais elle a un goût particulier pour le bois. Et elle, ses sculptures en bois font partie de ses plus belles œuvres.
Et c'est très intéressant ce que vous dites, parce que dans les carnets de Léonard de Vinci, plusieurs passages rappellent ces veines dans le marbre, les cernes du bois, le rapport à la pierre. Alors quand on parle des pierres précieuses ou semi-précieuses, a fortiori, puisque quand on coupe cette enveloppe qui semble rugueuse, on découvre un monde, le monde de l'agate par exemple. Mais là, par-delà ces pierres, c'est assez matériaux dont vous parlez, qui sont en quelque sorte le rapport de l'artiste, de son esprit, de sa conscience au réel tel qu'il est donné et qu'on ne peut pas changer, mais vers lequel on va à la rencontre. Et je trouve que c'est très beau parce que dans ces rapports de nous à l'œuvre de Shana Orloff aujourd'hui, il y va comme d'une rencontre avec le temps, avec l'espace, avec la matière.
Vous parliez de la technique du bois. Ce qui m'a frappé aussi à propos de la statue Noémie et Ruth, par exemple, c'est la technique aussi, enfin, le couple que représentent ces deux figures féminines, ouais. Leur gémelléité, le fait qu'elles paraissent comme jumelles, et puis aussi les techniques d'emboîtement. Alors, je sais que elle s'est peut-être inspirée des Matryoshka aussi, mais dans Le baiser et la famille aussi, on retrouve cette strate successive qui ordonne le couple et l'enfant, chacun dans leur ordre et dans leur suite. Et d'ailleurs, à ce titre, j'ai beaucoup apprécié l'alternance que vous faites entre les œuvres de Shana Orloff et celles de Zetkin, où là, par exemple, Le baiser la famille est à côté de La Sainte Famille de Zetkin.
Oui, merci. Bah, c'est vrai que ce sont deux œuvres magnifiques, hein. Aussi bien le baiser ou la famille de Shana Orloff et la Sainte Famille de Zetkin. Alors pour revenir à ce que vous avez dit sur cette notion de couple, effectivement c'est un thème important et y a ce thème de la fusion et du couple aussi féminin, qui n'est pas un couple amoureux hein, dans Ruth et Noémie, puisqu'en fait c'est la belle-mère et sa bru. Mais c'est vrai que ça fait écho en fait à la vie personnelle de Shana Orloff, puisque c'est une vie personnelle qui a été quand même très marquée par différentes tragédies, aussi bien la tragédie de l'histoire qu'une tragédie personnelle, puisqu'en fait elle va perdre son mari, Harry Jussmann, qui était un poète d'origine polonaise, et qui meurt en 1919, juste après la Première Guerre mondiale. Il est emporté par la grippe espagnole. Vous savez qu'il y a eu une grande épidémie qui a suivi la Première Guerre mondiale. Et donc, quand il meurt, leur fils n'a qu'un an. Leur fils, Elie Jussmann. Et Shana Orloff commence tout juste sa carrière. Donc, elle est encore... elle n'a pas énormément de moyens. Il faut qu'elle vive. Elle se retrouve veuve, très jeune, avec un fils qu'il faut qu'elle élève. Un fils qui, en plus, va attraper la polio. Donc, il va rester... hémiplégique. Donc, vous voyez quand même une vie très marquée par des drames personnels, mais elle s'en sort toujours. Et justement, elle s'en sort parce qu'elle a le soutien de toute une communauté de femmes, beaucoup de ses amies qui étaient aussi des artistes, par exemple une peintre comme Ivana Lemaître, qui était une peintre russe réfugiée en France. Enfin, à toutes ses amies, elle va réaliser, pour leur rendre hommage, un recueil de gravures en 1919, dont on montre certaines épreuves dans l'exposition. Et c'est pour ça et c'est aussi pour ça qu'elle va beaucoup s'intéresser au thème de Ruth et Noémie, parce qu'il y a cette idée de femmes qui s'entraident, vous voyez. Et c'est une des raisons qui fait qu'elle a un intérêt aussi marqué pour ce thème. Et par rapport à la famille, c'est vrai que c'est le thème de la filiation, en fait, entre les générations, qui est un thème très fort dans la culture juive et qu'elle reprend aussi dans son œuvre. Elle va avoir une relation très, très forte avec son fils. Donc voilà, c'est quelque chose qu'elle met souvent en scène dans son œuvre.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Oui, et moi, j'y vois plus encore qu'une entraide. Je vois à travers cette communauté de femmes, et notamment Ruth Noémie, hein, quelque chose qui relève d'un engagement et un courage féminin dans une communauté où voilà, on fait corps, un corps de femme qui n'est pas seulement le corps d'une femme singulière, mais l'assemblée en fait. Et on le retrouve souvent dans la filmographie d'Almodovar, hein. Dans Volver, par exemple, il y a cette communauté de femmes qui va s'entraider, qui donne une sorte d'élan, de dynamique. Et je trouve que par rapport au mouvement, Shana Orloff a beaucoup travaillé là-dessus. Le mouvement, on le voit dans l'acrobate, j'aime beaucoup cette sculpture, je trouve magnifique, et les danseuses. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire comment Shana Orloff envisageait ce rapport à la matière et sa pesanteur et la légèreté d'un mouvement de danseuse ou d'acrobate?
Alors, comment est-ce qu'elle l'envisageait, elle? En fait, c'est un peu compliqué comme question parce que c'est pas une artiste qui s'est beaucoup exprimée sur son œuvre. C'est pas une artiste qui parle, qui écrit. Ses témoignages, on en a parce qu'elle a été interviewée. Mais en fait, c'est pas une théoricienne, c'est vraiment une artiste, c'est-à-dire qu'elle crée, elle travaille son matériau et sa technique de prédilection qui est la sculpture. Après, c'est vrai qu'elle a une vraie passion pour ce thème du mouvement. Hein, c'est pour ça qu'on a consacré la deuxième section de l'exposition aux femmes en mouvement, justement. Et c'est là où est présentée cette belle série de danseuses. Mais c'est tout le paradoxe de la sculpture, effectivement. C'est qu'on part d'un matériau qui est difficile, qui est dur, hein, techniquement. C'est pour ça, d'ailleurs, que la sculpture, très longtemps, a été la chasse gardée des hommes. Et encore, quand Shana Orloff commence sa carrière, c'est très courageux parce qu'elle est une femme et c'est très rare. C'est encore plus rare d'être une femme sculpteur que d'être une femme peintre ou une écrivaine. Enfin, vous voyez, la sculpture, c'est vraiment une technique difficile. Et donc après, justement, tout le talent va consister à dompter ce matériau pour évoquer la fugacité, l'élan, enfin tout ce qui est le propre du mouvement.
La courbe aussi.
Et la courbe, tu le rappelles, Paul, c'est vraiment très important. Et quand je vous écoute, quand les auditeurs vous écoutent, Cécilie, on ne peut que relever ce mot de fugacité. Quelque chose qui relève à la fois de l'évanescence et d'une éternité. Et dans le titre que vous avez choisi, Shana Orloff sculptait l'époque, il y a la dimension historique que vous développez comme une résistance de la part de l'artiste, et en même temps quelque chose de l'ordre de l'instant. C'est dans l'instant qu'une inspiration passe, que le mouvement créateur se déploie. Mais justement, l'art comme moyen de résistance, Cécilie, c'est peut-être ce qui s'entend dans le croisement entre ce qui est fugace, évanescent, et ce qui demeure. Et là, le lien avec Vladimir Jankélévitch dans L'irréversible et la nostalgie me semble assez pertinent pour parler de l'œuvre de cette sculptrice ukrainienne. Vous le citez vous-même dans le catalogue, « Celui qui a été ne peut plus désormais ne pas avoir été. » Ce qui fait le mystère et la face profondément obscure d'avoir vécu, c'est son viatique pour l'éternité. Alors justement, quelle manière de se rapporter au temps envisagiez-vous quand vous avez choisi le titre, conçu la muséographie et présenté l'œuvre de cette sculptrice?
C'est ce qu'on voulait montrer aussi, c'est que Shana Orloff, ça a été une grande portraitiste. Hein. C'est comme ça qu'elle est devenue célèbre, et parce que de son vivant, elle était extrêmement célèbre. Aujourd'hui, elle est moins connue. J'espère qu'après l'exposition, elle sera très connue. Mais c'est vrai que, bon, en tous les cas, de son vivant, elle était extrêmement célèbre. Et c'est justement grâce au portrait. Et le portrait, c'est vrai que c'est un peu figé, vous voyez, un moment donné, un instant éphémère, un état éphémère d'une personne pour l'éternité. Encore plus en sculpture, parce que justement, on est dans des matériaux noble, hein, le bois, la pierre. Et par exemple, quand on prend le portrait de cette petite fille qui fait l'affiche, qui fait le catalogue, qui est la petite Nadine Fogel, qui était la fille d'un éditeur parisien extrêmement important dans le tout Paris de l'époque, Et ben voilà, c'est l'état d'une petite fille, vous voyez, qui va ensuite, elle va devenir une femme. Mais là, on la connaît grâce à Shana Orloff au moment. Elle a quoi, à peine 10 ans à ce moment-là. Elle a ses joues bien rebondies
toute
de
ronde.
L'enfance, son petit costume avec son col marin, sa petite joue plissée, son attitude d'enfant sage. Et ça, c'est, vous voyez, un instant éphémère qui a dû marquer l'artiste quand elle a réalisé ce portrait et qui est un don, en fait, pour l'éternité, quelque part, qu'on peut encore contempler aujourd'hui alors que le modèle a disparu et que, voilà, c'est, vous voyez, ça, c'est un peu le propre d'une portraitiste comme Shana Orloff. Et ce qu'elle avait de particulier, justement, par rapport au mouvement, c'est qu'elle n'aimait pas faire poser, en fait. Elle n'aimait pas faire poser ses modèles. Elle leur demandait souvent d'évoluer. Vous voyez, elle avait besoin de beaucoup dessiner, justement, pour essayer de saisir le geste le plus juste, l'expression la plus caractéristique de la personne.
Et c'est vrai, hein, on est étonné, frappé dans cette exposition quand on s'approche de l'œuvre, qu'on prend parfois un peu de recul, qu'on revient voir les œuvres, de l'expressivité. Et il y a comme une force très renaissante dans ces tableaux, dans ces, pardon, sculptures. À un moment, quand j'ai vu et revu Le Prophète, justement, j'aime beaucoup cette sculpture, il y avait dans cet œil, dans cette expression, quelque chose qui me rappelait à la fois Chagall, le père de Chagall, qui est exposé au musée d'art et d'histoire du judaïsme, et aussi quelque chose des œuvres du Titien, dans cette œuvre en particulier du Louvre, L'homme au gant. On voit cet homme qui tient son gant, la main est dénudée et le regard est perçant. Il y a quelque chose qui nous fait entrer dans l'œil de l'homme au gant comme dans les yeux du père de Marc Chagall. Alors, on pourrait se dire que la sculpture est loin de la peinture, et pourtant, elles se rejoignent ou s'entrappellent dans cette manière d'interpeller le spectateur, enfin celui qui est là, présent, qui passe à travers les époques. Et comme vous le disiez de l'enfant, l'éternité du modèle est là pour le devenir des époques et des hommes qui passent. Et justement, quand Jean Kelevitch, dans L'Irréversible et la Nostalgie, dit de l'homme qu'il est un irréversible en chair et en os, eh bien, il le dit dans le mouvement, dans le devenir de l'homme. L'homme n'est que devenir, et en même temps, ce qui est, voilà, a été, ne peut plus être comme il a été, mais c'est une tension entre le passé et le futur. Et dans cette façon de se projeter, justement, dans l'espace-temps, la sculpture est là comme pour nous interpeller à travers la force de l'expression. Et justement, ma question maintenant, c'est de penser comment Shana Orloff, selon vous, a-t-elle pu renouveler la pensée historique en lui donnant une force?
Alors, renouveler la pensée historique, là encore une fois, c'est un peu difficile parce qu'on n'est pas face à une artiste qui théorise sur sa création. Après, ce qui est sûr, c'est qu'elle veut, elle veut s'inscrire dans l'histoire. Elle, ce qu'elle veut, c'est garder un petit peu le témoignage de toutes ces personnalités qu'elle a fréquentées, puisque je pense qu'elle a quand même eu assez vite conscience qu'elle vivait un moment exceptionnel, en tous les cas dans l'histoire de l'art, en étant proche de tous ces artistes dont beaucoup allaient devenir célèbres. Et vous avez parlé de Chagall, qui à un moment a été son voisin, Modigliani, Soutine, tout ça, c'était des amis très proches, hein, de Shana Orloff. Et donc elle a eu envie, c'est ce qu'elle a expliqué à un journaliste un jour, de faire l'époque, c'est-à-dire... Bon, c'est un petit peu mystérieux, mais à la fois ça veut dire marquer son temps, hein, c'est devenir célèbre, elle, en tant qu'artiste, en tant que portraitiste, mais c'est aussi garder la mémoire, justement, de toutes ces personnalités, parce que quand on rentre dans l'exposition Le musée Zadkine, on est accueillis hein, par tout cet ensemble de portraits.
Oui.
Donc beaucoup sont maintenant des gens qu'on ne connaît plus très bien, mais il y en a quand même quelques-uns qui sont encore célèbres, par exemple comme l'architecte Auguste Perret ou d'autres. Et voilà, c'est cette idée, c'est de garder justement le témoignage de tous ces artistes, intellectuels, écrivains qui ont été ses amis et qui ont marqué leur époque.
Ou le peintre Georges Lepape.
Mmh. Fernand Léger.
Oui,
Max Jacob.
Léger, pardon, oui.
Et c'est très intéressant ce mouvement parce qu'on a beaucoup parlé de sculpture, de peinture peut-être. Il y a aussi la musique qui est présente dans son œuvre. L'accordéoniste Per Krok, si je le prononce bien, ce bronze des années 20, 1924, il me semble, eh bien, c'est un bronze qui donne à entendre aussi peut-être que le mouvement de l'accordéon qui semble danser dans les mains de l'accordéoniste, les sons qu'il rend et puis le rapport aussi à la Russie, au judaïsme, c'est très important l'accordéon hein, dans le judaïsme, et puis dans les tableaux de Marc Chagall également, il y a eu aussi une sonorité pour moi qui rappelle la fête. Mais la fête simple, pas des grands bals dans des beaux palais, quelque chose de populaire. Et je trouve que dans tous ces artistes de Paris que vous avez désignés, Soutine, Chagall, Modigliani, il y a l'entraide dont vous parliez, l'engagement du corps féminin dont nous parlions, mais il y a aussi peut-être cette commune humanité, voilà, de simplicité, de pauvreté et de rapport dans la pauvreté matérielle à une autre forme de pauvreté. Moi, c'est ce qui me touche beaucoup dans l'œuvre de Shana Orlov. Cette femme marquée dans sa vie par des épreuves, vous les avez rappelées, Cécilie, c'est une femme qui s'est dépouillée, comme le burin du sculpteur dépouille le matériau, il y a un dépouillement aussi de l'artiste dans son geste, dans son métier.
Alors, effectivement, elle s'est dépouillée, ou on l'a dépouillée. On a parlé des épreuves liées à la Première Guerre mondiale et à la perte de son mari. On n'a pas parlé de la Seconde Guerre mondiale, mais oui, c'est vrai que vous imaginez bien qu'en tant qu'artiste juive, ça s'est pas très très bien passé pour elle pendant la Seconde Guerre mondiale, puisque alors même qu'elle était extrêmement attachée à la France, hein, il faut rappeler qu'elle avait obtenu la nationalité française en 1925, justement, parce qu'elle eu égard à sa célébrité, à tous les sculptures qu'elle montrait, et c'est une reconnaissance de la France vis-à-vis d'elle. Son fils était donc français également. Et pourtant, évidemment, à partir de 1940, elle va être visée par toutes les lois anti-juives,
vichistes,
les lois du gouvernement de Vichy. Elle va ne plus pouvoir ni exposer ni vendre ses œuvres. Et puis, en juillet 1942, elle est avertie, sans doute par son fondeur et d'autres amis, qu'il va y avoir en fait une rafle qui vise les Juifs. En fait, c'est une rafle qui vise les Juifs étrangers. Donc, elle n'aurait pas été raflée. Mais enfin, quand même, c'est vraiment une période où on se rend compte qu'il faut partir, en fait. Et à ce moment-là, ben, elle décide de s'enfuir, donc dans la clandestinité. Et elle quitte sa maison-atelier qu'elle avait fait construire en 1926 par Auguste Perret, qui est un lieu qu'elle adore. Hein, c'est vraiment le lieu où elle se sent le mieux pour créer, mais là, en pleine Seconde Guerre mondiale, elle est évidemment obligée de fuir, et cette maison-atelier va être complètement pillée par les nazis, par des Français qui profitent de l'opportunité. En fait, on ne sait pas grand-chose, il y a un texte dans le catalogue là-dessus extrêmement précis, mais c'est vrai que c'est des périodes troubles hein, de l'histoire. Et donc, effectivement, il y a un véritable dépouillement, toutes les œuvres qui sont dans son atelier sont volées. Et elle va retrouver quand même sa maison en 1945, après la guerre. Mais c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, elle va renoncer, parce qu'elle avait fait meubler son atelier par des décorateurs célèbres de l'époque, avec des meubles art déco. Et effectivement, au retour de la guerre, elle renonce à tout ça qui avait disparu, sans doute marqué par ce pillage de l'atelier.
Merci beaucoup, Cécilie. Alors, nous allons passer maintenant une plage musicale. Voilà, cette musique que Christine Bessy a choisi pour cette émission que vous allez écouter maintenant, chers auditeurs.
Paco Ibáñez.
Paco Ibáñez, oui.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Negra de los bandoleros canta las espuelas. Ay, caballito negro, ¿dónde llevas tu jinete muerto? ¿Dónde llevas tu jinete muerto? Bechoshech betzel hayareach doher sus baderech susi el ana haparash al gabcha met halayla haparash al gabcha met halayla lebro bechoshech mutal ukeven iver et haresen. Mutaru keveri bedetaresen, ay, tzudiyei ana, im nichoa shel cheret porachat, im nichoa shel cheret porachat. Lebro b'choshek domen kavarech shesierah morena. Bajoshek domenga, babareje shesierra morena. Ay, susi ana, aparash al gabcha met halayla, aparash al gabcha met halayla. Che perfume de flor de cuchillo. Levro bajo shel zoheb kol mi shever ve'esh yad sholachat. Levro bajo shel zoheb kol mi shever ve'esh yad sholachat.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Chères auditrices, chers auditeurs, nous sommes en compagnie de Cécilie Champivinas, conservatrice du musée Zadkine. Nous parlions à l'instant de l'atelier qu'elle a dû quitter à cause du régime de Vichy, qu'elle a retrouvé délabré et saccagé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus aujourd'hui sur cet atelier ?
Oui, bien sûr. Alors, c'est un atelier, effectivement, qui existe encore et qui est toujours dans la famille, qui appartient toujours à la famille de Shana Orloff. Et c'est un atelier dans son jus, comme on dit, c'est-à-dire qu'il y a non seulement les murs de l'atelier. Alors, il n'y a plus le mobilier d'origine, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, tout a été pillé en 1943. Mais il y a encore les œuvres. Et c'est vraiment un atelier qui peut se visiter sur réservation. Et les visites sont assurées par les petits-enfants de Shana Orloff.
Entendu.
Et il se trouve dans une cité d'artistes, oui, pardon, qui est tout près du parc Montsouris, dans le 14e arrondissement, qui est la Villa Serein. En fait, c'est une cité d'artistes qui est, à l'époque, dans les années 20, quand ça a été construit, ce quartier était considéré comme la zone. Il y avait, paraît-il, voilà, des chiffonniers, des prostituées qui traînaient partout. Mais bon, ça n'a pas fait peur aux artistes comme Shana Orloff, qui, justement, parce que c'était pas très cher, ont acheté des terrains et puis on fait construire des ateliers art déco, en fait. Donc vraiment, c'est un très, très beau lieu que je vous encourage à aller voir.
On parlait de l'épreuve de la Seconde Guerre mondiale. Il y a aussi cette sculpture qui m'a beaucoup impressionné, qui s'appelle Le Retour, où elle compose une sorte de penseur, mais qui, contrairement à celui de Rodin, est bien penché, mais a les deux coudes sur les deux genoux, les bras en triangle, et avec une figure aussi, on le voit dans l'esquisse qu'elle a dessinée, l'esquisse préparatoire, avec une figure véritablement de déporté. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette sculpture, Le Retour ?
Oui, alors c'est l'œuvre, une œuvre qu'elle réalise en 1945, donc juste au moment, juste après la fin de la guerre et au moment où elle va pouvoir rentrer en France. Alors elle est évidemment marquée, mais comme beaucoup d'artistes, par la découverte de la Shoah, hein. On savait pendant la guerre qu'il y avait des camps, etc. Mais évidemment, en 1945, on découvre toute l'horreur de ces camps. Et elle voit des déportés qui reviennent, des survivants. Et, elle réalise un ensemble de dessins à la plume, justement, d'après ces figures de déportés qui rentrent, qui sont évidemment émaciés. Enfin, ce sont des dessins très, très forts. Hein. On en montre trois dans l'exposition. C'est vrai que ça fait partie des œuvres les plus émouvantes de l'artiste. Et à partir de ses dessins, elle va réaliser cette sculpture, Le Retour, hein, que vous avez évoqué, qui effectivement, c'est le retour après la guerre, le retour des camps, le retour à une vie normale. Et c'est aussi une variation sur ce penseur de Rodin. Alors, Shana Orloff admirait énormément Rodin, tout en ayant un style très, très différent de ce grand sculpteur. Et là, effectivement, on a un penseur qui n'est plus du tout un penseur. Le penseur de Rodin, il est réalisé au début du XXe siècle. On est à un moment où il y a quand même une foi, justement, dans l'avenir, une foi dans le progrès. Et après, en 1945, c'est plus du tout ça. Hein. C'est au contraire. L'humanisme est vraiment mis à l'épreuve. Comment est-ce qu'une telle horreur a pu se produire, au point que beaucoup d'artistes font le choix de renoncer à la figuration. C'est-à-dire que, comme de toute façon, on ne peut pas représenter ce qui s'est passé dans les camps, on passe à l'abstraction. Je schématise, hein, mais c'est une tendance quand même qui explique pourquoi il va y avoir... Enfin, les années 50 vont quand même être la grande période de l'abstraction. Et Shana Orloff, au contraire, elle va toujours rester fidèle à la figuration. Il y a quelques œuvres qui sont très belles, d'ailleurs, notamment dans ces monuments, où on sent qu'elle tend vers l'abstraction. Mais elle reste toujours dans des œuvres figuratives, aussi bien dans le domaine des portraits que dans le domaine des monuments ou de la sculpture animalière. Et ce qu'elle va trouver comme réponse, justement, à cette question... Mais comment créer, hein, après l'horreur de la Seconde Guerre mondiale, c'est d'avoir un modelé qui apparaît au moment du penseur, un modelé très accidenté. On a l'impression que les formes sont en train de se désagréger. Vous voyez, c'est un penseur qui... On n'est plus vraiment justement dans le sculpteur qui forge la matière, qui fait jaillir, hein, du bois, la forme qui était cachée à l'intérieur. Là, au contraire, on est face à une artiste où on a l'impression que les formes sont en déliquescence, sont en train, vous voyez, de revenir à la terre. Et c'est une des rares œuvres aussi qui exprime le désespoir, parce que l'œuvre de Shana Orloff est quand même une œuvre très sereine, de façon générale. Et là, avec justement la guerre, le retour, on a l'expression du désespoir et de la tristesse dans cette œuvre. Alors, c'est une œuvre qu'elle va mettre beaucoup de temps à montrer, justement parce que c'est une œuvre nouvelle qui constitue une rupture, hein, dans son style. Et elle la réalise en 1945, mais vous voyez, elle ne la montrera, elle ne l'exposera au public qu'en 1962 dans une galerie. Pendant toute cette période, elle va la cacher ou la montrer qu'à quelques amis dans son atelier.
Dans son œuvre, il me semble qu'il y a ces deux zones d'ombre avec la veuve, qu'elle aussi...
Effectivement, ouais. Il y a quand même d'autres œuvres, à part Le Retour, qui expriment le désespoir. Il y a son autoportrait en veuve qu'elle réalise en 1919, qui est extrêmement émouvant également, où elle a les yeux complètement... On a l'impression qu'elle a des orbites vides, complètement noires. tellement elle a dû pleurer à ce moment-là. Et à la fin, effectivement, dans les années 50-60, on a des œuvres aussi, comme la Veuve, ou, voilà, qui expriment également la tristesse.
Et son bestiaire aussi est marqué par... est assez original, enfin, à la fois magnifique, avec l'Oiseau d'or et les Inséparables qui redonnent la figure aussi du couple, mais aussi marqué par la guerre, avec cette sauterelle dont vous pouvez peut-être parler pour les auditeurs qui ne l'ont pas encore vue.
Alors le bestiaire, c'est un bestiaire décoratif et symbolique. Il y a des animaux qui servent à décorer, les animaux qui sont notamment les reliefs qui décoraient la maison d'une actrice, ou le dindon en bronze doré qui était un décor pour une fontaine. Et puis vous avez des animaux plus symboliques comme la sauterelle, qu'elle réalise en 1939, donc au tout début de la Seconde Guerre mondiale, et dont le corps de l'insecte évoque à la fois un canon, un char d'assaut nazi. Et c'est un renversement, puisque effectivement, la sauterelle, en fait sans doute référence à la Bible, hein, vous savez, avec les épreuves infligées au peuple juif, hein, parmi les plaies d'Égypte, il y a eu cette invasion de l'Égypte par des nuées de sauterelles. Et dans la propagande nazie de l'époque, antisémite, les juifs étaient souvent assimilés justement à des insectes ravageurs, des sauterelles. Donc Shana Orloff, en fait, reprend en fait ce thème et le renverse. Et la sauterelle devient en fait une allégorie de la guerre, de l'horreur de la guerre, de l'horreur du nazisme. Alors, voilà, comme un pressentiment de tout ce qui l'attend, puisqu'en fait, on est au tout début de la guerre quand elle réalise cette œuvre en 1939.
Donc,
elle ne sait pas encore tout ce qui va se passer.
Et relativement au bestiaire dont tu nous parles, Paul, et sur lequel vous revenez, Cécilie, j'ai été, quant à moi, très marquée par la chèvre, parce que c'est un animal... qu'on voit beaucoup chez Marc Chagall, qui est très relié au judaïsme. Et j'ai tout de suite pensé à un poème d'Umberto Saba, d'un compatriote italien. Et ce poème d'Umberto Saba, je ne peux pas m'empêcher de le lire pour les auditeurs, avec la traduction française. « J'ai parlé à une chèvre, dit Umberto Saba. Elle était seule. » Dans le pré, elle était attachée, repue d'herbe mouillée par la pluie, elle bêlait. Ce bêlement égal fraternisait avec ma douleur, et je répondis d'abord pour plaisanter, ensuite parce que la douleur est éternelle, qu'elle n'a qu'une voix et ne change jamais. Cette voix, je l'entendais gémir en une chèvre solitaire. En une chèvre, au visage sémite, se plaignait tout autre mal, tout autre vie. C'est un très beau poème, et c'est un très bel animal qui rend compte de toute l'histoire d'un peuple, une histoire marquée par la souffrance, on en a parlé, mais aussi marquée par ce qu'un autre compatriote pourrait dire avec Shana Orloff, la résilience, cette force de recommencer, cette force de retrouver en l'homme, malgré l'irréversible, malgré la nostalgie, un avenir, un devenir, où finalement, dans cette marche du peuple hébreu dans le désert, qui quitte la terre d'Égypte pour aller il ne sait pas où, en fait, et qui suit le prophète Moïse, une série d'épreuves, mais dans ces épreuves, une manière d'être dépouillé, en quelque sorte, de soi, de ses attachements, de ses images, de ses idoles, pour aller à la rencontre de l'image dans l'image. Et justement, quand vous parliez de ces artistes de Paris, ce qui est marquant, c'est l'aspect figuratif, oui, mais par-delà la figuration, la recherche d'un au-delà de la figuration. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Parce que là, on touche quand même le langage symbolique. La chèvre, on le reconnaît, bon, c'est une chèvre, d'accord. Mais par-delà la chèvre, c'est un symbole. Et par-delà le symbole, c'est une histoire, l'histoire d'un peuple, un animal totem, on pourrait dire, mais quelque chose qui nous dit autre chose aussi.
Alors, il y a toujours effectivement un sens symbolique ou un sens caché hein, dans l'œuvre de Shana Orloff. C'est toujours une œuvre qui parle de l'humanité, de l'homme. C'est une artiste extrêmement humaniste. Et ça, je pense que c'est un des grands messages de son œuvre. Et c'est pour ça aussi que c'était important de la montrer en ce moment. Et c'est une exposition qui, à l'échelle du musée Z, qui rencontre quand même un grand succès. On en est très contents, mais je pense que c'est aussi ça, parce qu'on vit une période extrêmement bouleversée quand même sur le plan de l'actualité. Et justement, une œuvre comme Shana Orloff rappelle hein, l'importance de l'homme, de l'humanité, du visage, des enfants. Enfin voilà, il y a quand même ce message qui est très fort chez elle et qui est lié effectivement à son caractère de femme extrêmement résiliente, extrêmement accueillante aussi, extrêmement généreuse. Ça se retrouve dans ses corps de femme très ronds, très enveloppants. Elle a une conception de la maternité vraiment très... très forte, qui est un peu centrale hein, dans la vie. Vous allez me dire, c'est pas très très original. Tout le monde sait que la maternité, c'est important dans la vie d'une femme, mais elle voit vraiment la maternité comme le cœur de sa création. Elle le dit d'ailleurs.
Hein. Oui.
Et ça fait, voilà, c'est cette vision quand même très très humaniste, en fait, de la vie et de l'homme. Et je pense que c'est le message principal de son œuvre.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Et le sens caché, symbolique dont vous parliez, c'est aussi le temps qu'on vit là en ce moment, avant Noël, le temps de l'Avent, où on attend. Le temps d'une promesse, moi j'aime beaucoup. C'est un temps où on fête l'Immaculée Conception dans le christianisme, c'est très beau parce que c'est le temps de l'attente de l'enfant. Et la maternité, elle est omniprésente chez Shana Orloff. Et ça, je fais un petit clin d'œil à Christine Bessie, qui nous écoute, parce que c'est très important pour elle, cette maternité, puis qu'elle en est aussi pour Paul et moi une forme emblématique. C'est cette force de l'attente qui semble être passive, mais en même temps qui nous transforme. Et c'est ce rapport-là qui est très intéressant dans le sens caché dont on parlait avec la chèvre, avec le bestiaire, avec les maternités de Shana Orloff, parce qu'il y a forcément aussi toujours ce rapport à la Bible. Même si on ne pratique pas une religion, dans le judaïsme elle nous marque beaucoup, même quand on passe d'une religion à une autre, qu'on quitte son judaïsme pour aller vers une autre, ça reste des racines très, très profondes. Et ces racines, c'est les racines du texte, donc aussi du sens caché du texte. Donc cette exégèse biblique, elle est omniprésente dans le rapport de l'artiste au matériau, quel qu'il soit. Et justement, aller du sens littéral à l'esprit de cette lettre du texte, eh bien, c'est voyager dans l'intime, dans l'intériorité, dans... l'inconnu aussi.
Oui, bien sûr, il y a cette effectivement ce qui est important d'avoir en tête, c'est en tous les cas ce sens de la vie, hein, cette volonté de mettre la vie, la maternité au cœur de la création. Et par exemple, quand on regarde un monument, le grand monument qui termine l'exposition du musée Zadkine, qui est la maternité Engef, qui est en fait un monument qui se trouve, qui a été commandé par un kibboutz peu de temps après la fondation de l'État d'Israël en 1948. Et Shana Orloff, au départ, c'est une commande pour un monument qui est destiné à commémorer 6 combattants, donc des hommes comme des femmes, qui sont morts pendant la guerre d'indépendance. Donc c'est un monument guerrier, hein, quelque part, enfin, vous voyez. Et Shana Orloff, elle, ce qu'elle va retenir, c'est l'image d'une femme, parce que dans ces 6 combattants, il y a une jeune femme qui est morte à 33 ans, alors qu'elle était enceinte, qui avait déjà 2 enfants. Et en regardant les archives du kibboutz, elle va tomber sur la photo de cette jeune femme qui tient son bébé dans les bras, qui a l'air d'être... qui est une jeune mère épanouie, qui ne sait pas, évidemment, le destin tout à fait tragique qui l'attend, puisqu'elle va mourir pour son pays. Et c'est cette image de mère épanouie qu'elle retient, vous voyez. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on regarde cette maternité Nguef, on voit avant tout une mère là, extrêmement solide, avec ce corps très généreux que Shana Orloff apprécie beaucoup. Une femme qui tend son bébé vers le ciel. On a plutôt l'impression d'être face à une œuvre voilà, qui nous parle de la vie, de la force de la maternité. Et justement, si on n'a pas derrière toute l'histoire tragique, eh ben on ne la ressent pas, en fait. C'est très étonnant, cette façon de concevoir un monument commémoratif. C'est assez fort et très original, je trouve.
Oui, oui, oui.
En vous écoutant, on ne peut pas s'empêcher de à travers ces figures de femmes martyrisées, de penser aussi à l'Ukraine aujourd'hui attaquée, à la résistance aussi dont fait preuve ce peuple, assez extraordinaire, et qu'on retrouve à travers son itinéraire de création, toujours, et d'invention. Ce qui m'a frappé aussi pour la période de la guerre, c'était de comprendre, ou si j'ai bien compris, qu'à un moment donné, l'interdiction même était portée sur la sculpture, et que les animaux qu'elle sculptait, elle les faisait en miniature pour avoir toujours avec elle la vie sculptée.
Oui, c'est ce qu'elle appelait ses sculptures de poche. On en montre quelques-unes, c'est des petites sculptures animalières, effectivement très loin des grands monuments. Parce que, bah, comme tous les artistes juifs de l'époque, elle ne pouvait plus, hein, c'est ce que je vous ai dit, ni vendre ni exposer. C'est terrible pour un artiste qu'on vous empêche de vivre de votre métier, évidemment, mais c'est toute l'horreur de cette période et de la persécution contre les juifs. Oui.
Et c'est important ce que tu rappelles, Paul, parce que on a ici cette force combative de Shana Orloff qui est presque symbolique de la femme, et on ne peut pas ne pas penser aux femmes d'aujourd'hui dans les pays en guerre, ou voire même dans nos pays, des femmes martyrisées, tous ces féminicides pendant la pandémie, hein, on ne peut pas les oublier. Et puis, on le sait, hein, le viol est une arme de guerre, et il y a eu beaucoup d'actualités, mais étouffées, sur les viols en Ukraine. Donc, il y a quand même ce corps de la femme qui est comme une forme de corps sacrificiel, en quelque sorte, à la fois un corps sacré par la maternité, et on ne peut pas penser, par exemple, aux Vénus de la préhistoire, ces femmes généreuses, ces corps généreux qui portent les enfants. Ces très belle exposition à Londres il y a quelques années sur ces Vénus, hein, et aujourd'hui, c'est cette maternité de la femme qui est, voilà, souillée. Vous voyez, commercialisé, c'est intéressant que l'art vienne nous éveiller, rendre une conscience de l'humanisme dont vous parliez, Cécilie, un humanisme qui s'entend dans voilà, la grâce d'être femme et le respect qu'on doit à son corps quand on est une femme. Parce que c'est un temple de l'esprit, un temple de la vie, et c'est pas rien, quoi, c'est pas juste un objet, quoi. Donc je trouve que quand on contemple la sculpture de Shana Orloff, on contemple une mémoire qui remonte à la préhistoire et qui nous rejoint aujourd'hui dans une interrogation. Qu'est-ce qu'on fait des femmes à notre époque ?
C'est sûr que quand certaines sculptures de Shana Orloff se rapportent clairement aux Vénus préhistoriques.
Oui.
Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que Shana Orloff représente non seulement des maternités, ça c'est quelque chose de très classique, hein, dans l'histoire de l'art, mais des femmes enceintes, ce qui est un peu moins en tous les cas en sculpture, c'est plus rare et c'est quelque chose qu'on retrouve effectivement à la préhistoire. Et oui, il y a vraiment cet hommage qu'elle voulait rendre, hein, au corps de la femme, qui est vu comme la source, le pilier en fait de la société, qui est porteur d'espoir, de vie. Et aujourd'hui, nous voir l'œuvre de Shana Orloff, quelque part, ça peut constituer un rempart, justement, enfin, un rempart spirituel. En tous les cas, toutes les excès, les horreurs ou les abus qu'on fait subir au corps des femmes aujourd'hui. Oui, ça, c'est sûr.
Oui, en peinture, je pense à l'œuvre de Paula Modersohn Baker, qui est hantée par la maternité, elle aussi, et qui donne à ce ventre de la femme qui attend son enfant, mais déjà au 8e, 9e mois, une place prédominante. Donc il y a la chair qui est présente, et cette chair, c'est la chair habitée, c'est pas seulement le corpeur en philosophie, c'est l'hype, c'est-à-dire c'est tout le vécu qu'il y a derrière, en fait. Et c'est cet art de porter. Et le porter, c'est pas seulement attendre, mais c'est aussi pour moi plus encore patienter. On est le patient de quelque chose qui nous dépasse, et en même temps, le portant, ce quelque chose qui nous dépasse, on s'en fait l'actrice ou l'acteur, parce qu'on parle beaucoup de la mère, mais le père attend, pas de la même manière. Mais c'est important de rappeler le rôle du père.
Qui s'inscrit aussi dans le temps de la promesse.
Bien sûr. Joseph est là avec Marie. Bon, il porte pas Jésus. Mais dans un couple, moi je n'ai pas eu d'enfant, mais on dit que le père est très présent.
Effectivement. Alors, les hommes sont présents aussi, quand même, dans l'œuvre de Shanna Orloff, même si on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y en a beaucoup dans les portraits, il y a beaucoup de portraits de famille aussi. En général, elle fait le portrait du père, de la mère, des enfants, voilà. Et puis, il y a cette très belle œuvre qui est sur le baiser ou la famille, qu'on a déjà évoquée, qui se déploie un petit peu comme des matrioshkas entre le père et son fils. Et qui est une œuvre vraiment magnifique sur ce thème justement de la filiation, du lien entre les enfants et les parents, de tout ce que les parents peuvent transmettre à leur enfant. Oui, c'est une œuvre très très forte.
Merci beaucoup de tout ce que vous nous avez dit aujourd'hui, Cécilie.
Très grand merci à vous.
Vraiment.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler pour nos auditeurs et auditrices les dates de votre exposition ?
Alors oui, donc c'est une exposition cette exposition Shanna Orloff est visible au musée Zadkine jusqu'au 31 mars. Donc il y a encore 3 mois pour la visiter. Et puis en parallèle, je souhaiterais rappeler également qu'il y a une exposition dossier qui se tient au musée d'art et d'histoire du judaïsme sur une sculpture, mais qui est une sculpture qui a été volée pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a été retrouvée cette année. Donc c'est vraiment un événement important pour tous ceux qui aiment Shanna Orloff, et c'est une très belle exposition à voir également. Et puis l'atelier la Villa Sera qui se visite sur réservation.
Merci beaucoup.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.